Bonjour, eh bien nous nous retrouvons pour l'émission Mosaïque, c'est-à-dire l'émission interreligieuse entre les juifs, les musulmans et les catholiques. Et le thème de cette émission pour ce mois de janvier, donc bonne année à tous, et on peut se dire parmi les vœux la paix et aussi que nous approfondissions nos relations entre tous et de ce fait pour construire des ponts là où d'autres, quelquefois, édifient des murs. Pour cette émission Mosaïque, le thème, c'est la miséricorde. Autour de moi, nous sommes avec M. Botvinnik pour les Juifs.
Bonsoir et nos meilleurs vœux.
Voilà, et Mme Tari pour les musulmans.
Bonsoir et également mes meilleurs vœux pour cette année 2016.
Voilà, et continuons ensemble donc à construire cette paix. Alors, il y a peut-être quelques éléments d'actualité. Monsieur Botvinnik, les nouvelles.
Alors, j'ai sélectionné deux petites nouvelles qui nous intéressent. Tout d'abord, le 18 décembre 2015, donc très récemment, l'ONU a déclaré que le jour de Kippour, 10 jours du Grand Pardon en France, serait reconnu comme une fête officielle qui se rajoute ainsi aux 10 fêtes déjà reconnues par l'ONU. Cette déclaration donne à la religion juive un nouveau statut au sein des nations.
Donc un statut international.
Le 17 janvier est la journée annuelle du développement du dialogue judéo-chrétien en Italie. À cette occasion, le pape François est reçu à la Grande Synagogue de Rome. Une déclaration commune a été publiée où les représentants des deux religions s'insurgent contre les gestes abominables qui profanent le nom de Dieu, contre la prétention ignoble des terroristes d'accomplir sa volonté.
Nous condamnons
absolument
aussi les uns et les autres ces actes terroristes commis au nom de Dieu, puisque évidemment c'est un contresens total sur le sens des religions chrétiennes, musulmanes et juives.
Tout à fait.
Si je peux encore un tout petit peu me permettre, ça fait maintenant 6 mois que nous travaillons ensemble pour exposer sur un même thème religieux choisi par nous le regard de chacune de nos religions. Cela ne peut que contribuer à la connaissance de celui qui vit en face de moi. À éviter d'en avoir peur, et en ce moment c'est très important, par méconnaissance, et faire germer l'amitié, ce qui est aussi une importance capitale dans notre vie. Mais j'aurais bien aimé savoir ce qu'en pensent les auditeurs.
Alors ça, disons que notre radio n'est pas suffisamment riche pour pouvoir organiser des études.
Des sondages.
Voilà, des sondages. Mais a priori, on n'a pas de remarques négatives, c'est déjà ça. Et puis on peut se dire aussi que nous sommes une radio qui innove, puisqu'il n'y a pas trop d'émissions interreligieuses. Et je vois aussi bien dans le texte du pape sur la miséricorde, alors du coup, eh bien, je vais commencer par vous lire ce passage, le souhait du pape, que cette année jubilaire, vécue dans la miséricorde, favorise la rencontre avec ses religions et les autres nobles traditions religieuses, qu'elle nous rende plus ouverts au dialogue pour mieux nous connaître et nous comprendre. Donc j'ai l'impression quand même qu'on est tout à
on
fait dans
dedans.
La bonne, bonne ligne, si j'ose dire. Qu'elle chasse toute forme de fermeture et de mépris, qu'elle repousse toute forme de violence et de discrimination.
C'est donc vraiment notre démarche.
Voilà. Alors, parlons un peu de la miséricorde chez les Juifs.
Et d'emblée, je vais demander pardon pour les lacunes de mon travail, n'étant pas théologien et n'ayant pas trouvé non plus un maître dans notre région pour me guider. Pour situer mon propos, voici une citation de la sagesse de Ben Sira. Le livre s'appelle « Le Siracide », que les chrétiens connaissent bien. Nos commentateurs de la Torah, tels Rashi, Rabbin Atroi, qui a vécu entre 1040 et 1105, pour expliquer la création, il insiste sur le fait que Dieu voulait créer le monde selon les principes de justice absolue, de vérité et de paix, Mais s'il y avait eu application stricte de la justice au terme de la loi qui nous a donnée, il n'y aurait plus d'homme en raison de la faiblesse humaine. L'attribut de justice fut donc d'emblée tempéré par celui de la miséricorde. Ainsi, par exemple, Abraham, plaidant pour le salut des habitants de Sodome et Gomorre, a négocié en demandant « Celui qui juge toute la terre usera-t-il de justice ?» Ce qui signifie « Si tu désires que le monde dure, il faut renoncer à la stricte justice. »
C'était véritablement un marchandage, hein, autant qu'il me
semble. Absolument, mais il va y avoir un autre marchandage. « Si tu insistes sur la stricte justice, alors le monde ne peut subsister. » C'est dans la Genèse. Alors, des siècles plus tard, lorsque Moïse, en descendant du mont Sinaï avec les premières tables de la loi, vit son frère Aaron et tous les enfants d'Israël assemblés autour du veau d'or, il sut que la colère divine serait terrible. Après avoir fait le ménage des personnes ayant foi aux idoles et ayant mis sa propre vie en jeu, il plaida la miséricorde de Dieu pour obtenir le pardon pour le peuple. Il lui demanda de lui enseigner ses desseins et même de voir la splendeur divine. La réponse du Créateur est exprimée dans le livre de l'Exode au chapitre 34, versets 6 et 7, et c'est la base de notre foi. La divinité passa devant lui et proclama « L'Éternel, l'Éternel est un Dieu tout-puissant, clément, miséricordieux, tardif à la colère, plein de bienveillance et d'équité. » Il conserve sa faveur à la millième génération, supporte la faute, la rébellion, le péché, il absout. Mais il poursuit les méfaits des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération.
Ça paraît contradictoire.
Il y a eu beaucoup d'exégèse, mais dans la suite, il va diminuer un petit peu
cette sévérité.
Mais ce qui vient d'être dit, c'est la répétition d'une partie du cinquième commandement. C'est dans le cinquième des dix commandements. Le grand commentateur Abraham Ibn Ezra, qui est probablement passé à Dreux dans les années 1155-1157, il a dit que...
Bon. On n'a pas de traces, hein.
Non. Alors, il a dit que tous ces adjectifs attribués à Dieu, eh bien, ce sont les 13 attributs de la miséricorde. Mais les attributs de la miséricorde, selon le philosophe Maïmonide, qui a vécu, lui, en 1135-1204, ne sont que des homonymes des attributs qu'on peut donner aux hommes, car il nous est impossible d'imaginer réellement des attributs du côté de Dieu. Et que s'ils sont décrits quand même dans le texte, c'est pour que les hommes s'en inspirent pour les imiter.
Voilà, donc en fait, les attributs de Dieu, quels qu'ils soient...
C'est une indication de ce que nous devons faire pour notre prochain au niveau de la miséricorde. Alors voilà le détail de ces attributs. Dieu est clément avant la faute. Dieu est clément aussi après la faute. Il est miséricordieux, il est compatissant, il est bienveillant, il est lent à la colère, il est abondant de bonté, il est abondant de vérité pour récompenser ceux qui accomplissent sa volonté, il préserve sa bonté pour des milliers de générations, et nous disons que nous vivons grâce au mérite de nos pères et de nos ancêtres, et on n'arrête pas de le dire dans nos prières, grâce au mérite d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il pardonne trois catégories de fautes, l'iniquité, qui est une faute intentionnelle, la rébellion à l'égard de Dieu, alors ça peut être le blasphème par exemple, il va pardonner le blasphème, la faute commise par indifférence ou négligence, il absout, ou notre traduction est il efface. Voilà donc les 13 attributs de miséricorde. Mais ensuite le verset poursuit, il n'absout pas, et la suite du verset indique qu'on n'est plus dans les attributs de la miséricorde, mais dans les attributs de la justice. Dieu pardonne entièrement ceux qui se repentent par amour, mais partiellement pour ceux qui se repentent par crainte du châtiment. Il faut que le désir du repentir soit sincère, non pas par peur du châtiment, mais par amour de Dieu. Alors ces deux versets-là sont répétés de nombreuses fois lors des prières de Yom Kippour, qui est non pas le jour du pardon pour nous, mais le jour des expiations, où après avoir fait une grande confession des fautes personnelles et communautaires, nous rappelons ces versets-là de façon à rappeler à Dieu sa parole pour nous permettre d'être inscrits dans le livre de la vie.
Donc on fait appel à la clémence de Dieu.
En lui rappelant ce qu'il a dit à Moïse. Thank you. nos sages nous ont expliqué que les péchés que nous avons commis à l'égard de Dieu, même le blasphème, donc, le jour de Kippour va effectuer le pardon. Concernant les péchés que nous avons commis à l'égard de notre prochain, Kippour n'effectuera pas le pardon. Il ne l'effectuera qu'après que nous soyons réconciliés avec la personne que nous avons offensée.
Mais ça me paraît intéressant, ça, parce que de fait, on ne voit pas pourquoi
seules les victimes,
confier à un autre.
Absolument. Seules les victimes d'une offense peuvent pardonner à ceux qui les ont commises, car Dieu ne saurait pardonner à un criminel aussi longtemps que sa victime continue de souffrir des conséquences de son crime. Pour bien comprendre cette chose-là, il faut penser à la personne qui a été violée. Seule la victime est à même de pardonner son agresseur. Il faut donc une réconciliation entre transgresseur et victime pour que le pardon s'ensuive. Seuls les agresseurs qui auront demandé pardon seront pardonnés par Dieu.
Donc ça, c'est la miséricorde vue dans le monde juif. Et on insiste donc aussi sur cette dimension du pardon et la relation autour du péché.
C'est-à-dire qu'on distingue deux sortes de repentir. On demande pardon à Dieu des actes que nous avons commis contre sa loi. Et donc, il va nous pardonner. Si on est sincère, il va nous pardonner. Mais le pardon du mal que nous avons fait à autrui, ou que autrui nous a fait, il faut qu'il y ait une relation. Le pardon, c'est comme l'amour. Il exige que les cœurs des deux personnes se joignent à un moment propice. Bien. Plus tard, dans le Deutéronome, la miséricorde est encore mieux explicitée. Les pères ne doivent pas être mis à mort pour les enfants, et les enfants pour les pères. On ne sera mis à mort, si c'est nécessaire, que pour son propre méfait. Voilà la réponse à la dureté des lois du Décalogue.
Et la dureté des lois de cette époque, qui était dure aussi dans toutes les religions et dans toutes les sociétés. Alors en islam, comment ça se passe?
Alors en islam, moi je vais partir des attributs de Dieu.
De Dieu, donc, miséricordieux aussi.
Voilà, dans la tradition musulmane, Dieu a 99 attributs. Parmi ceux que les musulmans évoquent le plus, ce sont Ar-Rahman, le très miséricordieux, et Ar-Rahim, le tout miséricordieux. Ces deux attributs dérivent du mot Ar-Rahma, la miséricorde. Donc le musulman évoque Allah, Dieu, par ses deux attributs au minimum 17 fois par jour. Et ça, c'est pendant les 5 prières quotidiennes. Donc 17 fois par jour, il va évoquer Dieu par le très miséricordieux, le tout miséricordieux.
C'est-à-dire celui qui est touché par l'homme et qui tient compte de la misère de l'homme.
Voilà, c'est tout à fait ça. Donc on récite 17 fois dans la sourate El-Fatiha, l'ouverture, qui est composée de 7 versets, et les deux premiers versets commencent par l'évocation du divin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, louange à Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Donc c'est Dieu lui-même qui se présente par ces deux attributs. Il est donc miséricorde par essence et par excellence. Le miséricordieux, donc, c'est une qualité capital pour nous musulmans, puisque on le répète nuit et jour, jour et nuit. À chaque fois que l'on veut faire quelque chose, que l'on souhaite quelque chose, on répète le très miséricordieux, le tout miséricordieux. On commence par cette formule, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
Est-ce qu'il y a une relation aussi, puisqu'on évoquait tout à l'heure à propos de la religion juive, le fait qu'il y avait des péchés, des fautes? Et est-ce qu'il y a aussi cette relation de la miséricorde qui est appelée lorsqu'il y a eu une faute ou une erreur du musulman, ou est-ce que...
J'allais y arriver un petit peu plus tard, mais puisqu'on en parle, et puis effectivement ça a été évoqué, oui, Dieu, Allah, est miséricordieux, tout miséricordieux, tant que le croyant, le musulman, enfin sa créature, commet un acte, un péché ou un acte mauvais vis-à-vis de lui. ou bien il a désobéi, ou bien ça peut aller même jusqu'au blasphème à partir du moment où il y a un repentir. À partir du moment où il y a un repentir, Dieu est pardonneur. Il est miséricordieux, tout miséricordieux. Mais si la personne commet un péché ou un acte abominable ou une injustice tout simplement qui peut être insignifiante, mais pour la personne qui a subi cette injustice, n'a pas envie de pardonner, elle est libre de ne pas pardonner. Dieu ne lui en tiendra pas rigueur. Cependant, il est toujours mieux d'être miséricordieux vis-à-vis des uns et des autres puisque notre Créateur l'est envers nous. C'est comme disait monsieur, quand on imagine la miséricorde d'une maman envers son enfant, elle ne peut pas lui vouloir du mal, combien même il lui désobéit. Alors la miséricorde de Dieu, elle est infiniment plus grande, elle couvre toutes choses. Et par contre, dans sa justice, il ne peut pas pardonner à la place de quelqu'un. Il laisse libre cours à la personne, comme je disais à l'instant, à la personne de pardonner ou pas.
Donc. Ce qui renvoie aussi à la tradition chrétienne catholique où de toute façon on doit délaisser son offrande, avant de prier Dieu on doit délaisser son offrande et aller se réconcilier avec le frère,
avec la personne, voilà,
de présenter son offrande.
Tout à fait.
Donc on a toujours cette relation aux autres
on
et
se
à Dieu.
Voilà, on se rejoint tous
dans
hein, finalement.
Dans des modalités différentes.
Voilà, on a quelques différences, mais la base, l'essentiel, on a des points communs en fin de compte. Dieu est.
Mais être en relation avec les hommes, quel que soit le fait religieux, et les hommes sont en relation entre eux aussi.
Exactement. Donc, pour revenir à ce que je disais, dans le Coran, toutes les sourates commencent par cette formule, par évoquer le Tout-Puissant, par Ar-Rahman, Ar-Rahim, le Très Miséricordieux, le Tout Miséricordieux, à part une seule sourate, la sourate 9, qui est le Repentir. Mis à part cette sourate, les 113 autres sourates commencent par cette formule. C'est dire combien Dieu, combien il est important de se rappeler sans cesse la toute miséricorde de Dieu. Le croyant doit toujours avoir à l'esprit cette miséricorde. Il ne faut jamais, jamais, au grand jamais, l'oublier et désespérer. Parce que si on oublie la miséricorde de Dieu, si on désespère de cette miséricorde, on tombe dans un péché. Parce que Dieu ne veut pas que ses créatures pensent qu'il est seulement dans la justice et dans le châtiment. Non, oui, c'est la miséricorde,
manière,
c'est la clémence. Voilà, c'est sa miséricorde, c'est sa clémence qui prédomine, qui devance le châtiment. Donc l'oublier serait tomber dans le péché.
Le pécheur qui ne demande pas pardon, qu'est-ce qui lui arrive ?
Dieu seul sait, comme je disais à l'instant, Dieu est pardonneur. Lui seul connaît la fin de chacun. Mais ce qui est sûr, en tout cas dans la tradition musulmane, ce qui est sûr, c'est qu'il ne pardonnera jamais à la place de quelqu'un. Donc la relation entre les humains leur incombe. Et ils sont responsables de leur pardon ou de leur non-pardon et demander justice le jour du jugement. Mais en dehors de ça, je ne peux pas préciser, je ne peux pas dire, moi, Fatna...
Pas vous substituer à Dieu.
Exactement.
Mais il n'y a pas de notion de châtiment du pécheur qui n'a pas demandé pardon.
Il y a une notion du châtiment. Bien sûr, on est châtié pour ce qu'on a commis.
Si
mais
on n'a pas demandé pardon.
Si on n'a pas demandé pardon, quand il y a
la,
le repentir...
La miséricorde n'est pas absolue. Elle n'est pas absolue en ce sens que si on n'a pas demandé pardon, on n'obtient pas la miséricorde.
Mais encore une fois, on ne peut pas se substituer à Dieu, parce que seul Dieu sait ce qui sera notre fin. La seule chose dont on soit sûr, c'est si... Il y a un acte abominable, comme tout à l'heure vous évoquiez le viol. Si la femme violée ne pardonne pas à son agresseur, là, Dieu ne va pas pardonner à l'agresseur.
Oui, mais si l'agresseur n'a pas demandé pardon.
Je parle pas de la... Combien même il demanderait pardon à Dieu si la victime ne veut pas pardonner, si il ne lui demande pas pardon à elle et qu'elle ne lui pardonne pas, Dieu ne fera pas le pardon.
Moi, j'imagine le côté du pécheur, pas du côté de la personne qui est lésée. Si on peut imaginer que le pécheur qui ne demande pas pardon, on ne sait pas ce qui va lui advenir et que la miséricorde est totale, à ce moment-là, c'est plus possible d'imaginer que Dieu est tout-puissant puisqu'il va accorder sa bénédiction à tout le monde, pécheur ou pas pécheur. Donc il doit bien y avoir quelque chose pour le pécheur qui ne s'est pas repenti de sa faute.
Non, il y aura
certainement. Je parle du pêcheur, je ne parle pas de la personne qui l'a lésé. Hein. Je oui. parle du pêcheur lui-même qui ne se repente pas.
Il y aura certainement un châtiment.
D'accord, ben voilà, c'est ça.
Certainement,
c'est,
oui. C'est ça parce que sinon, oui, effectivement, tout le monde fait tout et n'importe quoi.
Ça serait l'amour parfait.
Les gens chrétiennes, on demande dans les prières fréquentes, en tout cas le Notre Père, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Ceux qui nous ont offensés, tout à fait, oui.
On demande la relation à Dieu, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais donc il y a la relation aux autres, les deux sont liés.
Voilà, comme dans la tradition musulmane, Dieu pardonne, Dieu est miséricordieux et il aime ceux qui pardonnent. Il est préférable de pardonner. Et c'est tout le travail qu'il y a à faire sur soi, justement, parce que bon, c'est pas facile de pardonner à ceux qui nous ont offensés. C'est pas à la portée de tout un chacun. C'est donc un travail sur soi.
Je reste toujours du côté de l'offenseur.
Oui.
Donc, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, d'accord, mais ceux qui nous ont offensés, est-ce qu'ils nous ont demandé pardon? Voilà, c'est ça la grande question. Et c'est pour ça que...
S'ils ne demandent pas pardon, effectivement, il y aura un châtiment beaucoup plus grave. Hein,
peut-être qu'on aura une réponse du côté des catholiques alors tout à l'heure pour les offenseurs.
Je continue.
Oui, allez, rapidement maintenant.
Oui, oui. Alors la miséricorde, elle est citée dans le Coran au moins 79 fois. Bon, quand je dis la miséricorde, c'est Ar-Rahman, donc c'est vraiment sans parler des autres dérivés comme la clémence, le pardon, etc. Dieu s'est prescrit à lui-même la miséricorde, et cela à travers plusieurs versets dans le Coran. À l'exemple du verset 6 de la sourate 54, la lune, Al-Qamr, où il est dit « Et lorsque viennent vers toi, ceux qui croient, dit, que la paix soit sur vous. Votre Seigneur s'est prescrit à lui-même d'être miséricordieux. Et quiconque d'entre vous a fait un mal par ignorance et ensuite s'est repenti et s'est réformé, et alors tout pardonnant et tout miséricordieux, c'est-à-dire Dieu est tout pardonnant, tout miséricordieux. » Le prophète, dans des hadiths, donc des paroles qui lui sont propres, nous précise que la miséricorde de Dieu précède la colère. Donc c'est un peu ce qu'on était en train de dire. Dieu exhorte les hommes à être également miséricordieux les uns envers les autres. C'est quelque chose de capital. La miséricorde, le pardon, devrait habiter le cœur de chacun. Il faut être bon les uns envers les autres, savoir pardonner, car Dieu... S'il pardonne tous les péchés, ne peut pardonner les actes commis les uns envers les autres. C'est ce que je disais à l'instant. Plus largement, les humains constituent une seule famille, puisqu'on est tous descendants d'Adam et d'Ève, donc nous avons tous la même racine, et donc la miséricorde, elle doit couvrir tous les êtres humains.
Toute l'humanité, donc.
Toute l'humanité. La miséricorde recouvre l'amour, la solidarité, l'entraide, le pardon. Et ça, c'est vraiment la base, on en parlait auparavant, c'est vraiment la base du vivre ensemble. On doit être dans l'amour, dans l'entraide, dans la solidarité pour vivre en harmonie. Et donc
pour faire vivre cette miséricorde, voilà, c'est-à-dire être touché par la misère de l'autre.
Voilà, pour revenir aussi à la famille de l'humanité et non pas être centré sur soi-même ou sur sa petite communauté.
Eh bien, après ça, on va aller voir du côté des chrétiens comment ça se passe.
Alors, je vous donne la parole, alors.
Eh bien, je prends le texte de la bulle d'indiction du jubilé de la miséricorde. Et au paragraphe 6, eh bien, on nous dit que la miséricorde est le propre de Dieu dont la toute-puissance consiste justement à faire miséricorde. Donc Dieu est présent dans l'histoire de l'humanité comme celui qui est, je cite, « présent, proche, prévenant, saint et miséricordieux ». Et il est patient et miséricordieux, c'est le binôme qui parcourt l'Ancien Testament. Les psaumes font apparaître la grandeur de l'agir divin. Il pardonne toutes les offenses, il guérit de toute maladie, il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Mais par contre, les signes concrets de la miséricorde, il fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain, il délie les enchaînés, ouvre les yeux des aveugles, redresse les accablés, aime les justes, protège l'étranger, soutient la veuve et l'orphelin. Donc, il y a une réalité concrète à laquelle il révèle son amour, ceci c'est dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, le Christ accomplit ses œuvres de miséricorde envers les pécheurs, les pauvres, les exclus, les malades, les souffrants, puisque lorsqu'on lui demande de révéler son identité, il la révèle en disant que, justement, les signes sont accomplis. Donc Jésus redresse, guérit, remet debout, et il révèle la nature de Dieu comme celle d'un Père qui ne s'avoue jamais vaincu, jusqu'à ce qu'il ait absous le péché. Donc, y a-t-il une limite à la miséricorde de Dieu ? Et notamment, c'est dans un texte d'évangile où le maître est très généreux vis-à-vis de ceux qui n'ont pas rempli ce qu'il devait faire, et le maître a pitié. Et ensuite, cet intendant n'a pas pitié des autres. Et alors, ayant appris la chose, le maître se mit en colère et rappela le serviteur pour lui dire « Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Et le Christ qui enseigne cette parabole indique « C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. » Donc, il y a ce pardon de Dieu, mais aussi le pardon qui doit être la mesure qui gère les relations que nous avons les uns avec les autres. Alors ce pardon, bien sûr, c'est difficile. Le pape dit lui-même, bien souvent, il nous semble difficile de pardonner. Cependant, je le cite, hein, c'est au paragraphe 9, « Le pardon est le moyen déposé dans nos mains fragiles pour atteindre la paix du cœur. » Rappelons que miséricorde, justement, c'est se laisser toucher le cœur. Donc, cette miséricorde doit se vérifier dans l'agir quotidien, parce que Dieu veut notre bien, veut nous voir heureux, remplis de joie et de paix. Donc, la miséricorde passe avant la justice, qui n'est qu'un pas vers la miséricorde. Par ailleurs, le pape rappelle que la mentalité contemporaine semble s'opposer au Dieu de miséricorde, car elle tend à éliminer de la vie et à ôter du cœur humain la notion même de miséricorde, au point même que l'homme met à mal la terre. Cette domination de la terre, entendue parfois de façon unilatérale, est superficielle et ne laisse pas de place à la miséricorde. C'est-à-dire que là, dans ce texte sur la miséricorde, le pape souhaite qu'il y ait miséricorde des hommes entre eux, mais aussi une certaine miséricorde de l'homme vis-à-vis de la terre qui supporte. Et en ce qui concerne l'Église, puisque l'année sainte est sur le thème de la miséricorde, le texte nous rappelle que l'Église vit d'une vie authentique lorsqu'elle professe et proclame la miséricorde, attribut le plus admirable du Créateur et Rédempteur, et lorsqu'elle conduit les hommes aux sources de la miséricorde de Dieu, dont elle est dépositaire et dispensatrice. Donc la vérité première, c'est l'amour du Christ, l'amour qui s'est témoigné justement lorsque Dieu, pour les chrétiens, lorsque Dieu se fait homme et vient partager la vie des hommes. C'est le summum de la miséricorde. Je crois que, sauf s'il y a le mot de la fin, pour vous.
Ben moi, je serais juste tentée de dire, soyons à l'image de Dieu et soyons miséricordieux les uns avec les autres pour vivre en harmonie et en paix encore une fois, quitte à me répéter comme la dernière fois, mais vraiment la paix et la miséricorde ne peut que nous mener vers la paix.
Je crois qu'on peut partager cette conclusion.
Oui, tout à fait. Eh bien, moi je dirais que puisqu'il faut qu'on imite à l'image de Dieu sa miséricorde et qu'on s'occupe des autres, eh bien je dirais que le service de Dieu se transforme ainsi, en l'imitant, en service des hommes.
Voilà, service de Dieu, service de l'homme, service des hommes et de tous les hommes. Eh bien, c'est le mot de la fin. Et chers auditeurs, nous vous disons bonne semaine à tous et à bientôt.
Égalité et respect dans le monde entier. De mieux communiquer et nous respecter.
Tous frères et sœurs, s'entraider, mais surtout s'aimer, main dans la main.